en canalisation, on peut vous annoncer votre programme.
Bonjour, c'est l'heure de votre programme.
La compagnie des déboucheurs.
C'est un rapport qui était très attendu, le rapport sur les enseignements à tirer de la mort de la petite Liana. Le suspect numéro 1, Jérôme Barala, est toujours en détention provisoire et c'est à la lumière de son parcours émaillé de signalements pédocriminels qu'une inspection a donc été demandée et menée conjointement par les gendarmeries et la justice avec au cœur de cette enquête le signalement, la plainte de la mère de la petite Rosa. Stéphane Noël, il était l'inspecteur pour la justice.
La procédure criminelle a été traitée comme une procédure ordinaire ou, à tout le moins, n'a pas été traitée comme une procédure prioritaire. Tant de la part du parquet d'Auch que de la compagnie de gendarmerie de Condom. Le rapport objective un cumul de pertes de temps et une absence de suivi de procédure tant de la part du parquet que de la gendarmerie. La mission relève également une absence de prise en compte suffisante de l'urgence au regard du risque de réitération par le mis en cause.
Alors justement maintenant, on va voir ce que dit ce rapport avec vous, Nargis Hadji. Bonsoir. Que retenir? Quelles sont les grandes lignes et les enseignements alors?
Et donc, il y a eu une série de dysfonctionnements qui sont pointés du doigt par ce rapport. Il faut savoir qu'il y a eu une trentaine d'entretiens réalisés par la mission entre le 8 et le 12 juin 2026. Des magistrats, des fonctionnaires, des gendarmes ont été interrogés au sujet du traitement de cette procédure. Et d'abord, eh bien, on vient de l'entendre, la plainte déposée par la mère de Rosa en août dernier contre Jérôme Barella a été traitée comme ordinaire, avec ces mots du chef de l'inspection générale de la justice. Cette plainte n'a pas été traitée comme une procédure prioritaire. Le caractère sensible de la procédure n'a pas été relayé. La procédure n'a pas été orientée vers le bon service de gendarmerie, retardant son traitement. Le transfert du dossier concernant Jérôme Barella pose donc question. Il faut savoir qu'il a été envoyé au format papier par le parquet de Toulouse. Pas de coup de fil au parquet d'Auch. Le dossier n'a pas été attribué à un service d'enquête pendant un mois et demi. Et puis, ce que pointe aussi à cette mission d'inspection, c'est qu'il n'y a pas eu d'audition immédiate du suspect, seulement une deuxième audition de la mère de la petite Rosa. Le dernier contact pris sur cette affaire date du 14 février entre donc les gendarmes et la parquetière en charge du dossier. Ensuite, plus aucun échange. Désormais, il y a deux dates à retenir. C'est un pré-rapport et donc on attend le 10 juillet prochain la fin de ce pré-rapport et enfin, dans un deuxième temps, le 5 septembre 2026, le rapport définitif.
Donc c'est un rapport, comme l'a dit Sébastien Lecornu, Guillaume Daré, qui montre que l'urgence n'a pas été prise en compte, une vérité d'une extrême gravité, la chaîne de protection a failli. Mais là, on est dans le constat. Ce que les Français attendent maintenant, c'est que ça change.
Oui, alors ça veut dire aussi que, vous le savez, Gérald Darmanin, de son côté, avait dit qu'il faudrait des sanctions. Si des sanctions sont jugées nécessaires, il va y avoir une enquête administrative qui va être lancée pour que ce soit plus détaillé, c'est que s'explique son entourage. Et si à l'issue de cette enquête administrative, il y a des sanctions à apprendre, il annonce qu'il saisira le CSM, mais plutôt au moment de la rentrée.
Le Conseil supérieur de la magistrature.
Absolument, le Conseil supérieur de la magistrature.
Ça prendra quand même plusieurs mois.
Ça prendra plusieurs mois.
En pour pleine ce campagne d'élection présidentielle.
Avec un changement de direction à la tête du CSM.
Absolument. Sur l'aspect politique, effectivement, Sébastien Lecornu avance et son entourage au sein du gouvernement qu'ils espèrent qu'il y aura, c'est un peu tout ce qu'on dit toujours dans ces cas-là, malheureusement, mais qu'il y aura un avant et un après Liana, notamment sur la prise en conscience et la prise en compte, une meilleure prise en compte désormais de la parole des enfants. Ça, il soulève le fait que vraiment, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné et que dans les 70 000 plaintes, vous savez, qui sont examinées en urgence jusqu'au 14 juillet, c'est ce qu'avait dit le ministre de la Justice, eh bien, il constate que dans ces plaintes, ce qui va être compliqué désormais, ce qui doit ouvrir un vrai dossier politique et de société, c'est que la plupart des affaires se passent dans le cadre intrafamilial et que ça doit ouvrir aussi à ce moment-là un débat de société. Donc il l'a dit, il a avancé des propositions ces dernières semaines, Sébastien Lecornu, le fait que les premiers actes d'investigation se fassent en 3 mois, le fait qu'on puisse peut-être questionner très clairement le fait que désormais il faudra justifier le fait qu'on abandonne une enquête ou qu'on classe sans suite une enquête quand il y a des actes criminels contre les enfants, des agressions sexuelles qui ne donnent pas suite à une enquête. Donc ça, c'est la réforme judiciaire. Le Premier ministre, clairement, va la prendre en charge. Pour ce qui est des sanctions, ça relève toujours de Gérald Darmanin. Précision, les oppositions appellent toujours à sa démission. Il n'en est pas question, il est soutenu par le gouvernement. Et dans l'entourage du gouvernement, on dit même, le gouvernement n'a pas d'échéance électorale, on laisse les autres s'agiter dans leur pédiluve, je cite, les ministères régaliens, c'est sérieux.
Vous êtes satisfait de ce rapport, de ce que vous en savez, Madame la députée, ou pas ?
Pardon, je vous rappelle la création de la commission indépendante sur l'inceste et sur les violences faites aux enfants. Elle a émis 82 recommandations.
Et combien ?
Nous sommes en 2026. Elle ne les a pas émises en 2025. Elle ne les a pas émises en 2024. Elle les a émises en 2022 et 2023. Donc, moi, tous ces gens qui sont surpris aujourd'hui, je viens d'entendre que le ministre est surpris de constater que dans toutes ces plaintes, une grande partie, la grande majorité, a lieu dans le cadre familial. Mais 160 000 enfants victimes par an, dont 80%, 130 000, dans le cercle familial. Mais bien sûr qu'il y a urgence. Bien sûr qu'il y a urgence. Il n'y a pas urgence à ce que l'un démissionne ou que l'autre soit sanctionné. Il y a urgence à ce qu'il y ait un arsenal juridique qui puisse prendre en charge toutes ces plaintes, traiter les actes d'enquête, qu'il y ait des, et c'est ce qu'on fait avec la loi intégrale. Moi, c'est la seule chose qu'on demande. C'est qu'il y ait une réponse politique et juridique à la hauteur de ce que vivent ces enfants depuis la nuit des temps.
Sauf que là, ce que montre ce rapport dans l'affaire Jérôme Barella, c'est sur la plainte de la petite Rosa avec sa mère, qui, selon la commission d'enquête, elle a été violée 50 fois.
C'est ce que dénonce cette petite fille. Et alors, moi, pour prendre un tout petit peu d'auteur, autant la plainte déposée par cette maman et cette fille qui ont le courage de pousser cette porte de gendarmerie, elle a été extrêmement bien faite. Les premiers actes d'enquête, ils ont été extrêmement bien faits. Il y a eu des rapports d'expertise, tout était bien. Et dès que ça commence à partir et que ça commence à être transmis au parquet d'Auch, alors ça déraille, et ça déraille un peu, honnêtement, à tous les étages. Il y a des erreurs d'aiguillage, il y a des erreurs de tri, il y a de la non-numérisation, il y a des coups de fil qui sont pas passés, il y a une réaudition de la mère alors qu'elle l'avait déjà été. Bref, il y a plein de petites défaillances et d'erreurs d'appréciation humaines qui font qu'on arrive à cet énorme ratage et que effectivement on se souvient de la mère de Rosa qui expliquait cette culpabilité qu'elle avait parce qu'elle a remué ciel et terre et qu'au final elle n'a pas pu éviter ce qui est arrivé à ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire la mort de Liana.
Mais c'est-à-dire que plein de petites erreurs,
énormes. Enfin, au final, ça fait une montagne.
C'est quoi ? C'est il y a un signe. Il y a des envois papier au lieu d'envois informatiques.
Il y a une erreur de tri.
Il y a une plainte qui est posée. Voilà, on met pas. Il faut le traiter de manière urgente.
Il n'y a pas la cache cochée urgente. Il n'y a pas de caractère d'urgence. Il y a une procédure criminelle qui n'est pas traitée comme une procédure ordinaire. Il y a une perte de temps. Et même, ce qui est écrit dans le rapport, c'est que si la maman de Rosa n'avait pas appelé elle-même le tribunal d'Auch pour dire c'est urgent cette situation, il faut intervenir, on aurait mis encore plus de temps. Alors, ça devient complètement aberrant. Les antécédents de mise en cause ne sont pas prise en compte au moment du dessaisissement. Il n'y a pas d'accompagnement à la hauteur pour Rosa. Et là, je vous rejoins, il n'y a pas de vision d'ensemble. Et voilà. Et c'est toute cette série d'erreurs, de mauvaises appréciations, de décisions.
On ne se parle pas, on transmet.
Ça se croise, on ne sait plus où c'est, on perd du temps. Et
mais le rapport dit que ce n'est pas un problème de moyens.
Non, c'est un problème, ce que je vous dis, c'est un problème
individuel.
D'actes et de décisions individuelles qui, mis bout à bout, font que ça ne marche pas.
Ce que ne comprennent pas les ministres quand vous échangez avec plusieurs membres du gouvernement, c'est effectivement ce que disait Pauline, les deux faces. C'est-à-dire que le directeur d'enquête de la brigade territoriale, en réalité, dit d'une certaine façon je veux coffrer cet homme-là, je sais qu'il se passe quelque chose. Mais
on est où ? On est dans le Gers.
Absolument, mais je veux un dossier béton, donc je lance de nouveaux actes d'investigation.
Donc je ne place pas en garde à vue. Donc
je lance de nouveaux actes d'investigation.
De réanalyser.
Là où, effectivement, au sein du gouvernement, on dit on avait déjà tous les éléments pour le placer en garde à vue, il y avait une mesure d'urgence. Et effectivement, le fait qu'à partir du mois de février, depuis mi-février, que ce soit au ministère de la Justice ou au ministère de l'Intérieur, il n'y a plus rien qui se passe. Et effectivement, là, on sent que côté du gouvernement, il y a une incompréhension totale.
Non, mais c'est vertigineux.
Ça veut dire que, comme souvent, dans notre pays, lorsqu'il y a une lutte contre la délinquance, qu'elle soit sexuelle ou autre, mais vous l'avez très justement pointé, les services de police de gendarmerie ont fait le boulot. Elles ont fait le boulot et elles sont parfois très déçues parce que derrière, lorsqu'on envoie ça dans la machine kafkaïenne bureaucratique judiciaire, eh bien, ça se perd. Et donc, à un moment, quand vous êtes sur ces défaillances judiciaires-là, il faut qu'on en tire des conséquences, vous avez raison de le dire, il faut qu'on propose des choses. Dans n'importe quel autre secteur, lorsque vous avez failli, eh bien, vous êtes responsable. Et donc, ce que nous, on propose au niveau des Républicains, c'est juste de répondre à un certain nombre de faits qui sont maintenant criants, c'est de dire il faut instaurer une cour disciplinaire pour les magistrats qui ferait en sorte que, comme dans les cours d'assises, vous avez des citoyens qui viennent pour donner leur avis sur ce qui s'est passé sur une affaire, il y a des citoyens qui puissent dire, là, on le voit, les personnes doivent être sanctionnées. Parce que qu'est-ce que ça peut être avoir de grands pouvoirs comme étant le pouvoir de la justice sans avoir de grandes responsabilités. Deuxièmement, il faut pouvoir aussi avoir des mesures qui soient radicales. Mmh. Je m'explique. La colère légitime de tous les gens qui sont impactés par l'IANA, on l'est tous. Parce qu'on se dit, ça pourrait être ma fille, ma sœur, etc. Et donc, il faut bien un moment qu'on prenne des mesures, pas uniquement qu'on fasse des manifestations. Donc, ce que nous proposons, c'est la castration chimique qui existe dans d'autres pays pour faire en sorte que les monstres qui sont en liberté, lorsqu'ils sont condamnés, puissent être, de cette façon-là, empêchés. Parce que la réalité, c'est qu'on ne pourra pas mettre un magistrat, d'ailleurs, malheureusement, vous l'avez évoqué, le nombre d'agressions qui est énorme, il faut qu'on puisse aussi prévenir. Et j'ajoute enfin un dernier point. C'est que les mêmes qui, aujourd'hui, nous disent il faut voter la loi intégrale, il faut plus de moyens, c'est récemment encore, ont voté contre des peines planchers pour des récidivistes. C'est assez curieux, c'est-à-dire qu'on dit d'un côté, il faut des nouvelles lois, des nouveaux moyens, mais lorsque l'Assemblée nationale a proposé que, lorsqu'on sait que, par exemple, quelqu'un est déjà récidiviste, il a déjà violé plusieurs fois, il a déjà agressé, non, à ce moment-là, on ne veut pas l'emprisonner. Et enfin, j'en termine par là. Madame, pardon, mais il faut assumer, je regardais le projet du Parti Socialiste pour la présidentielle. Le projet du Parti Socialiste présidentiel dit « Nous préférons des peines alternatives à la détention ». Moi, je vous le dis, c'est un scandale de proposer encore des peines alternatives à la détention pour des pédocriminels. Ça, peut-être qu'il y a une prise de conscience de la part d'un certain nombre de personnes à gauche.
Les peines alternatives ne sont peut-être pas pour les pédocriminels.
Ben si, puisque c'est des questions de condamnation. Vous savez que dans les agressions sexuelles voilà, malheureusement, et lorsque c'est requalifié en agression sexuelle, eh bien, on peut considérer que c'est des peines alternatives. Donc je demande à la fois qu'on mette en place c'est la demande de Bruno Retailleau et donc des Républicains, la castration chimique, la cour disciplinaire et enfin qu'on retire, pour ceux qui veulent encore ça, les peines alternatives à détention. La place de Jérôme Barella, elle est pas dehors. La place de Jérôme Barella, elle est en prison parce qu'il y a des gens qui font du mal.
9 mois avant.
Et ben encore plus, oui, voilà. Encore plus après.
Sauf qu'il n'y avait jamais eu de mise en examen.
Défaillance de la chaîne judiciaire.
De condamnation en ce qui concerne Jérôme Barella. Vous pouvez vous retrouver là-dessus ou pas?
Moi, en tout cas, cette affaire-là, elle est le révélateur de quelque chose de systémique. On ne peut pas, en réponse à ce qui s'est passé avec l'IANA, avoir une mesure ou deux mesures. Ça n'est pas sérieux.
Je vous en ai proposé trois.
Ça n'est pas sérieux. Donc, eh bien, dans la proposition de loi intégrale, qui y compris est signée par des députés républicains, je vous le dis, il y a 79 articles. 79 articles qui touchent 18 codes. Pourquoi? Parce qu'on agit précisément, comme vous l'avez dit, en prévention. Ouais. On agit en formation. On agit, mais en formation aussi sur l'ensemble de la société civile.
Et 160 000 enfants...
parents madame, qui sont
comprends.
Victimes, ça veut dire une masse
madame,
demain d'affaires à traiter.
Madame, on peut
et pour
se
traiter
retrouver,
cette masse
pourquoi,
d'affaires, nous proposons
pourquoi,
non pas de créer
pourquoi,
un tribunal spécial pour sanctionner
pourquoi,
les magistrats, mais des juridictions
madame,
spécialisées
madame, pourquoi,
avec des magistrats
non,
qui savent
si
de quoi l'on parle. Vous me coupez la parole, je finis ma phrase.
Pourquoi vous refusez, vous parlez de prévention et de formation, pourquoi refusez-vous encore la répression?
Mais votre proposition n'est que répressive.
Non, pas du
si,
tout.
Bien sûr que si.
Pourquoi?
Elle n'est que répressive.
Non, je vous pose la question.
Et donc, asseoir en réponse à ce crime, à ce fait de société.
Pourquoi refusez-vous de mettre des pédocriminels
mais
en prison?
Pas comme ça.
Ben, pourquoi?
Enfin, c'est quoi ces incohérences?
Répondez-moi.
Cette manière de me parler.
Mais je vous parle très bien, répondez-moi.
Mais je vous réponds que nous avons besoin de réponses globales sur toute la chaîne.
Mais pourquoi refusez-vous la répression?
Mais je refuse pas la répression, moi-même.
Mais non, vous avez voté contre, madame.
J'ai déposé précisément en novembre 2025 une proposition de loi sur l'inceste. Pourquoi?
Mais je vous parle pas d'inceste, là.
Parce que là. Les crimes sexuels. Il n'y a pas d'inceste
Rosa,
dans l'affaire Liana.
Rosa, c'est pas un inceste.
Dans l'affaire Liana, il n'y a pas d'inceste.
Non, Rosa, c'est pas un inceste.
Monsieur Haddad, vous dépassez les limites
madame,
de l'entendement.
Non, pas du tout.
Bien sûr
Rosa,
que l'affaire Liana, il y a de l'inceste. C'est au moins sur trois générations.
Okay.
Et bien sûr que ça crée des agressions sexuelles.
On le met en prison ou pas? Est-ce que Barella, on le met en prison? Est-ce que
avant le drame absolu de l'IANA,
vous c'est pouvez me laisser
dire.
Répondre. J'ai déposé une proposition de loi
justement.
Sur les crimes d'inceste, parce que les crimes d'inceste dans notre code pénal aujourd'hui ne sont pas des crimes à part entière. J'ai créé ce crime d'inceste, j'ai ajouté les cousins dans la lignée parce qu'ils n'y sont pas aujourd'hui, et j'ai augmenté le quantum des peines. Et pour les sériels, je suis allée jusqu'à la perpétuité. Mais je vais vous dire que quand j'ai fait les auditions de la commission d'inceste sur l'inceste parental. J'ai eu le sentiment de m'être fourvoyée sur ces augmentations de quantum de peine. Parce que ça ne résout pas, ça ne vient pas casser cette chaîne qui tourne à l'infini de la reproduction des agressions sexuelles qui est systémique.
Est-ce qu'il faut en finir avec les peines alternatives? Vous êtes d'accord avec ça ou pas?
je ne peux pas dire oui, il faut en finir avec les
donc
peines
vous
alternatives.
Voulez laisser en liberté.
Vous avez, mais
donc
pas vous... du tout, mais, si. Mais pas du
Madame,
tout.
Monsieur Adam,
vous êtes caricatural.
Mais non,
vous êtes caricatural sur un sujet qui est sérieux.
Je suis très
factuel. Celui de la protection de nos enfants.
Jonas Haddad et Madame la députée, une seconde. Parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que après le drame absolu de la mort de la petite Liana, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, a demandé à ce que d'ici le 14 juillet, on traite 70 000 dossiers de crimes et agressions sexuelles.
Ouais. On réexamine. Voilà.
Qu'on les regarde.
Le timing sera tenu.
Le timing sera tenu.
Et là, cesse d'augmenter.
Les magistrats qui se sont mis à la tâche...
Ils découvrent des stocks et des volumes incroyables. Et surtout, il y a 134 personnes qui sont désormais placées en détention provisoire. Alors, est-ce que c'était des personnes qui étaient déjà détenues dans d'autres dossiers? On a rouvert des dossiers, on a vu qu'il y avait peut-être des connexités et on les a maintenues en détention provisoire. C'est possible, on n'a pas le détail. Ce chiffre est avancé, c'est un chiffre provisoire, nous dit-on. 134 détentions provisoires, on n'est pas encore au 14 juillet, ce chiffre, il va augmenter. Ça veut dire qu'effectivement, la justice se met en mouvement, rouvre les dossiers, découvre des stocks, découvre des volumes et fait ce qu'il faut faire dans l'espace-temps qui lui est imparti, c'est-à-dire le 14 juillet.
Et l'entourage du ministre de la Justice nous précise aujourd'hui ce qu'il avait déjà été évoqué il y a quelques jours par Gérald Darmanin, qu'on serait d'ailleurs probablement bien au-delà des 70 000 plaintes. En réalité, quand ils sont en train de faire remonter les stocks de plaintes, comme disait Pauline, on ne sera pas à 70 000, on sera à plus de 70 000 plaintes.
Mais parce qu'il y a des plaintes tous les jours qui continuent d'arriver et qui doivent absolument rester prioritaires. Et donc, il y a bien quand même une question, parce que moi, j'ai eu un échange avec le procureur de ma circonscription. Il y a un problème de moyens. C'est-à-dire que pendant que ces magistrats...
C'est pas ce que dit le rapport.
Bien sûr.
Ce sont des inspecteurs de la justice et de la gendarmerie.
Pendant que les 70 000 plaintes et plus sont en train d'être examinées, à votre avis...
Bien sûr.
Mais sur quoi sont faits des sacrifices?
Bien sûr.
Qui sont pour autant, dans les circulaires, décrits comme étant des priorités.
Dans le cas de Liana, ils disent qu'à Auch, il n'y avait pas, que le parquet n'était pas submergé. Et que si on image les choses, si j'ose dire, la pochette rouge dans laquelle le dossier avait été mis.
Sur des erreurs.
La pochette n'a jamais été saisie.
Oui, mais. Moi, j'ai une vie.
Il peut y avoir une vision.
168 annuels.
Mais il peut y avoir une vision générale et pointer du doigt les erreurs et les responsabilités individuelles dans le traitement.
Il faut que la chaîne se mette en ordre de marche.
L'un n'exclut pas l'autre.
Et la chaîne doit être remise en ordre de marche sur cette priorité absolue, absolument partout.
Merci à vous d'avoir ouvert ce débat. On comprend bien qu'il ne fait que commencer puisque ce rapport sera suivi encore de précisions.
Alors, il y a un pré-rapport le 10 juillet et le rapport définitif le 5
septembre. Mais on rappelle qu'on entre dans une autre période à partir de la rentrée qui est celle de l'élection présidentielle.
Ce sera un débat de cette campagne, à coup sûr.
Et on verra ce qui se fait d'ici là.